Camarade, d'abord, bonjour. Je ne sais pas si tous les lecteurs, les gens qui participent à cette visioconférence sont des lecteurs réguliers de Combattre pour le socialisme. Je ne peux que leur souhaiter. Mais je voudrais attirer leur attention sur une chose. J'ai eu la curiosité de reprendre un certain nombre de numéros anciens de Combattre pour le socialisme. Anciens, c'est-à-dire avant l'explosion de la crise qui prend la forme d'une crise sanitaire. Et je voudrais lire quelques extraits. En septembre 2018, donc il y a maintenant 18 mois, nous écrivions la chose suivante. Au bout du compte, la vérité est que l'économie mondiale n'a nullement surmonté la déflagration de 2008. Aux États-Unis, en Chine et d'une autre manière en Europe, les gouvernements bourgeois n'évitent l'effondrement immédiat que par le recours à des expédients, en particulier une véritable orgie de crédit, qui ne peuvent que préparer de plus grandes catastrophes. Car le recours sans frein au crédit, c'est précisément ce qui est apparu en 2008, porte en lui le risque de défaut de paiement et à partir de là d'un krach bancaire. L'économie mondiale, écrivions-nous en 2018, est à la merci du moindre événement en apparence fortuite qui pourrait précipiter la débâcle. Si on relit cette dernière phrase, on peut dire que nous y trouvons aujourd'hui une complète confirmation. Et s'agissant de la place de la Chine, le camarade qui avait été chargé dans Combattre pour le socialisme d'écrire l'article sur la situation économique écrivait la chose suivante. Un retour aux contradictions qui se sont exprimées en 2008, mais dans une situation qui s'est considérablement dégradée. Contrairement à 2008, les bourgeoisies américaines et européennes, ainsi que la bureaucratie chinoise, se trouvent aujourd'hui sans recours face à l'approfondissement de la crise, précisément parce que ce tournant indique qu'une limite a été atteinte dans les possibilités d'accroître toujours plus l'endettement afin de repousser l'éclatement des contradictions accumulées. Dans le cas de la Chine, cette limite constitue une différence de toute première importance par rapport à 2008. Cela signifie que la Chine ne pourra pas jouer un rôle d'amortisseur de la crise comme elle avait pu le faire à l'époque. Pour les raisons expliquées ci-dessus, la Chine risque au contraire d'être un des foyers de la crise en préparation, avec des effets d'autant plus ravageurs que la transformation impérialiste de la Chine s'est accélérée depuis 2008, ce qui a renforcé dans des proportions importantes les liens entre l'économie chinoise et l'économie mondiale. Force est de constater que, aussi bien sur cet événement en apparence fortuite qui pourrait précipiter la débâcle, que sur le rôle de la Chine, qui pourrait être un des foyers de la crise en préparation, avec des effets d'autant plus ravageurs, etc., etc., force est de constater que ces pronostics se sont révélés complètement confirmés. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer qu'à combattre pour le socialisme, nous sommes des devins et que nous avons une boule de cristal. Nous ne sommes même pas, en tant qu'individus, des individus beaucoup plus malins que les autres. J'ai parfois tendance à penser que nous le serions plutôt moins que les autres. Mais nous disposons d'une méthode dont les autres ne disposent pas. Cette méthode, c'est celle du marxisme. Et ça nous permet quand même de porter une appréciation sur le cours des événements qui est parfois un peu plus ajustée. Et je trouve qu'il y en a actuellement l'illustration. La crise que nous connaissons, camarades, prend la forme d'une crise sanitaire. Je dis bien, prend la forme d'une crise sanitaire, non pas que la crise sanitaire n'existe pas, elle existe et ô combien, mais derrière la crise sanitaire, il y a la crise économique, plus que la crise économique, la dépression économique qui s'annonce, qui n'a d'égal que celle de 1929. Et de ce point de vue-là, la crise sanitaire, c'est-à-dire l'épidémie, selon la formule d'un philosophe qui s'appelait Hegel, c'est le contingent qui réalise le nécessaire. La crise qui s'annonce va précipiter, ça c'est une certitude, dans la famine, et a commencé à précipiter dans la famine, des centaines de millions d'êtres humains, en plus de ceux qui y étaient déjà. Elle va ruiner des millions et des millions de ce qu'on appelle socialement des petits bourgeois, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, etc. Elle va pulvériser des secteurs entiers de l'économie, cela a d'ailleurs déjà commencé. Dans les pays émergents, la famine, dans les pays capitalistes avancés, pour la classe ouvrière et même pour l'aristocratie ouvrière, une brutale dégradation de la situation sociale s'annonce. Et l'illusion dans laquelle, il faut bien le dire, nous vivions pour ainsi dire tous, à savoir, bon, naturellement, on était dans une période de régression historique, naturellement, la situation se dégradait, mais on pouvait imaginer qu'elle se dégradait suffisamment lentement. Cette illusion, aujourd'hui, va disparaître. Ce n'est pas d'une lente dégradation à laquelle nous allons avoir affaire, c'est d'un véritable effondrement. Autrement dit, et pour citer, ça fait deux fois le même philosophe, on peut dire aujourd'hui que la quantité est en train de se transformer en qualité du point de vue de la régression sociale. Alors j'ai dit que la crise économique prenait la forme de la crise sanitaire, et j'ai rajouté, ça ne veut pas dire que la crise sanitaire n'existe pas. Demeure une question. Est-ce que la crise sanitaire est une crise naturelle, une sorte de fatalité naturelle tombée du ciel? Ou est-ce qu'au fond, la crise sanitaire est aussi, d'une certaine manière, l'expression et la manifestation des rapports de production capitalistes? Camarades, je m'avance sur ce terrain avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un épidémiologue, je ne suis pas un virologue, je ne suis pas un médecin, etc. Mais je lis ce que disent et ce qu'écrivent les virologues, les épidémiologues, à la mesure des limites de ma compréhension. J'ai été très intéressé personnellement par un spécial, deux pages spéciales du Monde du 8 avril. Et dans ce Monde du 8 avril, il est écrit, c'est une page intérieure, je pense que tout le monde ne le lit pas, les remarques suivantes. Le nombre d'épidémies a augmenté depuis 1940, avec un pic au cours des années 80. Surtout, les trois quarts des maladies nouvelles sont des zoonoses, c'est-à-dire des zoonoses, pardon, c'est-à-dire des maladies transmises par les animaux. Or, précise l'article, déforestation, conversion des terres agricoles, intensification. De fait, ces changements rapprochent les populations de la faune sauvage. Avec la déforestation en Asie, en Brésil, en Afrique, des individus ont été massivement exposés à ces nouveaux aléas microbiologiques. Dans les écosystèmes riches, de nombreuses espèces, quand elles sont confrontées à un virus, peuvent les détruire ou ne pas les reproduire. Elles jouent le rôle d'un cul-de-sac épidémiologique de rempart. En appauvrissant les exosystèmes, on se prive de ces espèces et des fonctions essentielles qu'elles exercent, qui sont celles de barrières naturelles ou encore d'épurateurs des écosystèmes. Alors je sais que je le lis un peu vite, je sais que ce n'est pas simple, mais grosso modo ce qui est établi par des gens qui sont des écologues, qui sont des virologues, etc., c'est qu'il y a quand même un petit rapport entre la façon dont le système capitaliste, le mode de production capitaliste, détruit la nature, détruit la biodiversité, déforeste massivement, etc., etc., et le développement des épidémies. Admettons un instant, camarades, que le rapport que j'établis ici soit problématique et ne puisse pas être considéré comme absolument établi. Il y a une chose qui est établie, et c'est établi de manière très très nette. C'est que l'impuissance à juguler l'épidémie du coronavirus n'a rien de quelque chose de purement naturel. L'impuissance n'est pas une impuissance purement scientifique. Ou plutôt, l'impuissance, c'est l'impuissance dans laquelle le mode de production capitaliste, le système capitaliste, les priorités... Nous avons, dans le précédent, la présente déclaration du groupe, cité longuement le virologue Bruno Canard. Et il l'explique admirablement. Il explique comment il a été amené à travailler sur la question des vaccins éventuels contre les coronavirus, puisque les coronavirus, C'est une famille de virus, hein, ne m'en demandez pas plus, je ne vous pourrai pas vous en dire davantage. Et il explique comment, après que l'épidémie du SRAS ait été jugulée, eh bien, on lui a coupé les crédits pour une raison simple. C'est que ce qu'il aurait pu, les avancées qu'il aurait pu avoir du point de vue des vaccins contre le coronavirus, eh bien, ces recherches n'intéressaient personne, ou plus exactement, ces recherches ne pouvaient pas intéresser le pharmaco-business, c'est-à-dire ne pouvaient pas produire du profit. Pour une raison simple, c'est que lorsqu'un virus est purement occasionnel, eh bien, lorsque le vaccin a fait son œuvre, hein, eh bien, il n'est plus commercialisable, il ne présente plus d'intérêt. Cela, Bruno Canard, qui est un virologue, un des plus grands virologues de France, l'explique tout à fait bien et de manière tout à fait claire. Autrement dit, on a cessé de rechercher dans ce domaine parce que ça ne pouvait pas produire du profit immédiat. Et c'est pourquoi aujourd'hui, camarades, la façon dont, entre guillemets, la société lutte contre le virus, elle est digne de la façon dont la société moyenâgeuse luttait contre les épidémies de la peste. Le seul recours qu'on a trouvé, c'est de confiner les gens, c'est-à-dire de les isoler les uns des autres, ce qui est une manifestation quand même assez patente de l'impuissance dans laquelle nous sommes. Voilà, camarades, c'est un exemple. Mais prenons un autre exemple. Et je ne serai pas, exhaustif. Je ne prétends pas parler de tout. On pourrait parler de l'absence de tests, de l'absence de l'absence même de médicaments qui fait que non seulement on meurt, mais on meurt dans la souffrance, faute de cureurs, faute d'anesthésiants, etc. Mais prenons simplement la question des masques. L'absence de masques, en particulier en France, elle a strictement rien d'accidentel. Elle est le produit d'une politique. À un moment donné, on a décidé qu'on ne renouvelait pas au niveau de l'État le stock de masques. On a décidé que, ben ma foi, on allait confier cette question des masques aux entreprises elles-mêmes. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le renouvellement du stock de masques, les masques ont une durée de vie limitée, ils se périment au bout d'un certain temps, etc. Le stockage des masques, eh bien, ça coûte quelque chose et que c'est quelque chose qui ne présente pas d'intérêt du point de vue du système du profit. Non seulement ça ne présente pas d'intérêt, mais au moment où les capitalistes doivent être gavés de crédits, d'impôts de toutes sortes, si vous voulez, on en reparlera, mais le crédit impôt recherche, le crédit compétitivité emploi, le pacte responsabilité, toute cette politique qui a consisté littéralement à gaver les grands capitalistes de fonds publics, eh bien, elle exigeait d'un autre côté qu'on racle tous les fonds de tiroir du point de vue des budgets sociaux. Et ce qui a été raclé notamment, ben c'est tout simplement l'entretien du stock de masques. Et le résultat, on le voit aujourd'hui. Et de cela, camarades, et je ne développerai pas davantage, il faut conclure, la crise sanitaire, non, ce n'est pas une fatalité naturelle. Le caractère de cataclysme que prend cette crise sanitaire à l'échelle de l'humanité n'est pas une fatalité naturelle. Elle est tout entière le résultat des rapports de production capitalistes. C'est dire que les gouvernements bourgeois successifs emportent l'entière responsabilité. Et ce seul fait devrait amener à considérer n'importe quelle organisation, et notamment les organisations syndicales, se réclamant, si peu que ce soit des intérêts ouvriers, de rejeter avec indignation tout appel à l'union sacrée, tout appel à l'union nationale contre l'ennemi commun ou considéré comme tel, dans le cadre de la guerre contre l'ennemi invisible, comme dit Macron. Et d'ailleurs, ce langage guerrier, il faudra qu'on explique quelle est sa fonction et à quoi il sert. Voilà pour ce qui est de la crise sanitaire, alors à grands traits, et il y a des camarades qui, dans les domaines que j'ai esquissés, parmi ceux qui participent à cette visioconférence, qui sont infiniment plus compétents que moi pour en parler, et ils pourront en parler dans la discussion. Derrière la crise sanitaire, je le disais, derrière ou devant d'ailleurs, ou enfin en même temps, il y a la dépression économique. Alors, je ne vais pas vous gaver de chiffres, mais quand même en donner quelques-uns, quoi. Aujourd'hui, on en est à 22 millions de chômeurs aux USA. La baisse annoncée de l'activité aux USA est pronostiquée à hauteur pour l'année 2020 de 25% par le staff de la banque Goldman Sachs ou Sachs. En Europe, on annonce une baisse du produit intérieur brut de l'ordre de 10, 15, 20%, on ne sait plus très bien. D'ailleurs, en France, on en est au second projet de loi de finances rectificatif et Darmanin annonce que, ma foi, il n'est absolument pas exclu qu'il y en ait bientôt un nouveau, c'est-à-dire un troisième. Je ne vais pas faire un développement complet sur la crise économique, mais je dirais que par certains côtés, la situation économique, elle est concentrée, elle se concentre dans la situation du marché pétrolier. Je ne le croyais pas, camarade, donc il a fallu que je relise plusieurs fois. Je ne croyais pas que les trusts pétroliers, à un moment donné, ça a duré quelques heures, et il n'est pas dit que ça ne revienne pas, étaient prêts à payer pour se débarrasser de leur pétrole. Oui, camarade, à payer. Le pétrole était passé dans des valeurs négatives. Alors moi, je croyais que c'était une formule, je croyais que ça voulait dire qu'il est... Ils étaient vraiment prêts à payer. Pourquoi ? Parce que les stocks sont... Les cuves sont à ras-bord, y compris les tankers en mer sont pleins à ras-bord, etc. Et on ne peut pas interrompre l'extraction sans dommage énorme sur le plan financier, etc. Donc, il faut absolument se débarrasser de ce pétrole par tous les moyens. Alors, ça aboutit à cette situation où on paye pour se débarrasser du pétrole, qui rappelle, avec une différence d'ailleurs, mais une différence en pire, vous savez, la situation de 1929, on évoque souvent la crise de 1929 à travers cette espèce de cliché, qui est une réalité, ce cliché où on mettait du café dans les locomotives à vapeur pour les faire fonctionner, parce qu'il fallait se débarrasser du surproduit de café. Sauf que là, même sous cette forme, on n'arrive pas à se débarrasser du pétrole, et donc il y a là une manifestation énorme de ce qu'est la crise de surproduction. Alors, la crise pétrolière, d'ailleurs, elle indique autre chose, camarade. Alors, évidemment, pourquoi il y a trop de pétrole ? Bon, je n'ai même pas besoin de l'expliquer, parce que, d'abord, au départ, parce que c'est ça, au départ, quand même, parce que la baisse du pétrole, elle a commencé avant le coronavirus. Bon, au départ, il y a la baisse de la demande chinoise, et la baisse de la demande chinoise, elle était liée à l'essoufflement de l'économie chinoise. Et naturellement, tout ça a été démultiplié avec la crise sanitaire, c'est-à-dire avec le fait qu'il n'y a plus de transport aérien, que les transports, y compris routiers, sont réduits de manière considérable. Je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, ce sont des évidences. Et il y a un autre aspect qui, lui, est très politique. C'est que la surproduction de pétrole, elle est liée au fait que l'Arabie Saoudite et la Russie n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur une limitation conjointe de la production, qui est au fond la seule manière de soutenir un tant soit peu le cours du pétrole. Ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Mais vous savez, cette affaire, c'est, si je me permets cette comparaison, c'est le billard à trois bandes. Parce qu'en réalité, les Russes et l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Arabie Saoudite, s'étaient surtout pas mis d'accord parce que ce non-accord leur permettait de ruiner par ailleurs la concurrence américaine, puisque, vous le savez peut-être, les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole, mais sous la forme du pétrole de schiste. Et le pétrole de schiste, il y a un coût de production qui est supérieur à l'extraction classique, celle qui prévaut par exemple en Arabie Saoudite. Autrement dit, dès que le pétrole passe au-dessous d'un certain coût, eh bien, l'extraction du pétrole de schiste cesse d'être rentable et se fait à perte. Donc le non-accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite, elle avait surtout pour but de ruiner la concurrence américaine. Hein. Et donc, c'est instructif parce que ça montre que, bien évidemment, dans la dépression qui s'annonce, non seulement il n'y aura pas de solidarité entre les différentes puissances économiques et impérialistes, mais qu'au contraire, ça sera le règne du tous les coups sont permis. Je ne parle même pas là, bien que ce soit ce qui nous importe en premier, des coups portés au prolétariat lui-même. Hein. Et évidemment, le fait que la crise et la dépression, elle entraîne une concurrence accrue entre les différentes puissances impérialistes, on en trouve également, j'évoque rapidement, une illustration en Europe et à l'échelle de l'Union européenne. À l'échelle de l'Union européenne, puisque à l'échelle de l'Union européenne, le gouvernement italien, qui par ailleurs a une dette publique énorme, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de l'économie italienne, hein, et qui est confronté, comme vous le savez, et à quel point, à la crise, entre guillemets, sanitaire, eh bien, l'Italie a appelé au secours et a dit que ce qui serait bien au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on émette des obligations communes à l'Union européenne, ce qu'on appelait, ce que ce gouvernement italien lui-même appelait d'ailleurs les coronabonds. Et Merkel lui a dit, et là le tutoiement, je ne sais pas si c'était un tutoiement d'amitié, quoi. Elle lui a dit, écoute, si tu attends des coronabonds, je te le dis tout de suite, tu les verras jamais. Autrement dit, il n'est pas question que l'Allemagne accepte de porter une part du fardeau de la dette italienne que l'Allemagne attribue en toute générosité à l'insouciance proverbiale des Italiens. Bien. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut attendre de la période qui vient, c'est une exacerbation des conflits interimpérialistes qui peut aller jusqu'où? Alors ça, j'en sais rien, parce que je ne peux pas faire de pronostic là-dessus. Mais enfin, si vous prenez les propos de Trump sur la Chine, hein, le virus chinois, l'OMS, auquel on va couper les fonds parce que l'OMS est censée être à la botte des Chinois, les déclarations de Pompeo, selon laquelle la Chine ou le Parti communiste chinois représenterait une menace pour l'humanité tout entière, ce sont des propos qui non seulement sont peu amènes, mais qui sont même des propos largement guerriers. Je reviens sur ce qu'écrivait Combat pour le socialisme avant l'ouverture de cette crise dite du coronavirus. Et en particulier, ce qu'a écrit le camarade qui avait écrit l'article économique sur la Chine. Il expliquait, dans le cas de la Chine, il y a une différence tout à fait importante par rapport à 2008, c'est que la Chine ne pourra pas jouer le rôle, au 2020, elle ne pourra pas jouer le rôle qu'elle a joué en 2008. Qu'est-ce qui s'était passé en 2008, camarades? En 2008, vous avez cette crise financière, crise dite des subprimes, sur laquelle je ne vais pas revenir tout de suite, on pourrait y revenir éventuellement dans la discussion. Mais comment, je ne dis pas on est sorti de la crise de 2008, parce que la vérité, c'est qu'on n'en est jamais sorti. Mais comment la grande glissade, la glissade vers la dépression profonde, la glissade vers une situation à la 1929, comment a-t-elle été évitée? Qu'est-ce qui a permis de l'éviter? Et qu'est-ce qui a permis que, sans qu'il y ait rétablissement d'une période de prospérité du capitalisme, ça c'était hors de portée, qui a permis qu'il n'y ait pas effondrement de l'économie capitaliste à l'échelle mondiale? Eh bien, ce qu'il a permis, camarades, c'est le plan de relance chinois. En 2009, fin 2008, début 2009, le Parti communiste chinois initie un immense plan de relance économique, de manière d'ailleurs parfaitement, par certains aspects, artificielle. Hein, on a construit des villes fantômes, on a bâti des aéroports sur lesquels à peu près aucun avion n'atterrissait ni ne décollait, on a construit des lignes de TGV avec des TGV où à peu près personne ne circulait, etc. On a fait ce plan de relance, le Parti communiste chinois a organisé ce plan de relance, utilisant le fait que même si, bien évidemment, la Chine est un État bourgeois, le gouvernement, le Parti communiste tient le contrôle contrôle largement encore, en particulier, le système bancaire, et en relançant, en organisant ce méga plan de relance, eh bien, on relançait les cimenteries, on relançait les hauts fourneaux pour la sidérurgie, on relançait l'ensemble de l'économie, et on relançait aussi, y compris, la nécessité pour la Chine de disposer des machines-outils qui venaient de l'Allemagne, etc. Bref, le plan de relance chinois a sauvé la mise, enfin en tout cas limité considérablement les dégâts pour l'économie mondiale tout entière. Alors si le Parti communiste chinois l'a fait, c'est pas par philanthropie, c'est pas par amour des Allemands, des Américains, des Européens ou que sais-je encore, non pas du tout. Si le Parti communiste chinois l'a fait, c'est parce que le plan de relance était pour lui la seule manière d'éviter en Chine même l'explosion de gigantesques contradictions sociales qui pouvaient le miner. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, dans une certaine mesure, on peut considérer qu'il a réussi. Ça, c'était 2009. Alors, est-ce que ça peut se reproduire en 2020? Eh bien, camarades, non, ça ne peut pas se reproduire en 2020. Ça ne peut pas se reproduire en 2020, et on s'en rend compte aujourd'hui où, paraît-il, c'est à voir, hein, la pandémie en Chine est relativement jugulée, ou en tout cas est en recul, et où on voit dans quelles conditions aujourd'hui s'opère la reprise de l'activité économique en Chine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'opère de manière flagolante, chaotique et incertaine. Et pourquoi? Pour une raison très simple. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008? Depuis 2008, l'intégration de la Chine dans le marché mondial a été encore considérablement accentuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour sa production, comme pour ses débouchés, la Chine dépend plus encore qu'en 2008 de l'ensemble de l'économie mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que, parce qu'il y en a encore, même si l'économie chinoise tend aujourd'hui à produire elle-même ses propres pièces, mais il y a quand même aujourd'hui encore, par exemple, énormément d'usines de montage dont les pièces proviennent des autres pays capitalistes. Et ces autres pays capitalistes, précisément, ils sont à l'arrêt ou à peu près. Donc, comme ils sont à l'arrêt ou à peu près, eh bien, les usines, elles manquent des éléments de production qui leur permettent de rentrer en pleine activité. Et puis, il y a un autre aspect qui est peut-être plus important que celui-là. C'est que, ce qui est à l'arrêt surtout, c'est la demande à l'échelle mondiale. C'est la demande à l'échelle mondiale. Or, la Chine continue à dépendre largement, un peu moins qu'à une époque, c'est vrai, mais encore largement, l'économie chinoise dépend largement de ses exportations. Or, la demande, encore une fois, dans les grands pays où la Chine exporte, cette demande, elle est sérieusement ralentie et elle peut même être complètement à l'arrêt. Et le fait qu'il y ait tant de peine à cette reprise de l'économie chinoise, en plus pour des raisons intérieures, parce que, si vous voulez, dans le climat d'incertitude actuel, les travailleurs chinois, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont deux sous d'économie? Eh bien, ils l'épargnent. Ils l'épargnent d'autant plus que je rappelle quand même qu'en Chine, il n'y a à peu près plus aucun système, ni de retraite, ni de sécurité sociale. Donc, si vous n'avez pas d'épargne, vous êtes mort. Bon, donc le résultat, c'est que, y compris la consommation intérieure, elle est à l'arrêt. Et donc, le résultat, c'est encore une fois cette reprise plus que flagolante et plus que chaotique qui est celle de la Chine. Et la Chine ne pourra plus jouer le même rôle qu'elle a joué en 2009, y compris par le fait que 2009, le plan de relance s'est fait au prix d'un endettement énorme, en particulier des régions, et qu'un nouvel endettement de cette ampleur n'est pas possible. Et je lisais récemment un article dans Le Monde où ils expliquaient que le nouveau plan de relance chinois, eh bien, il est très maigrichon par rapport à celui de 2009. Alors, on nous explique que pour sortir de la panade, il y a également, dans tous les pays, d'ailleurs on nous explique, ça correspond à une réalité, il y a des espèces de plans pharaoniques de relance. On nous jette des chiffres impressionnants au visage, on nous parle d'un plan de relance de 2000 milliards aux États-Unis, on nous parle d'un plan de 1100 milliards d'euros en Allemagne, etc., etc., etc. Alors, Est-ce que ces plans de relance peuvent jouer leur rôle et produire une nouvelle période d'expansion du capitalisme? Absolument pas. Il faut dire plusieurs choses sur ces plans de relance. La première chose qu'il faut dire, c'est que pour une part, c'est des fictions. Pour une part, c'est des fictions. Pour une part seulement. Et pour une part, c'est des fictions. Par exemple, on totalise le cash, c'est-à-dire ce qui est donné directement aux entreprises, avec des garanties d'emprunt, mais une garantie d'emprunt, ce n'est pas de l'argent mis sur la table. Une garantie d'emprunt, ça veut dire une garantie d'emprunt. Ça veut dire vous empruntez, vous remboursez, et si par malheur vous ne pouvez pas rembourser, alors peut-être l'État interviendra pour, etc. Hein, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Bon, par exemple, l'Italie, il y a 400 milliards de garanties d'emprunt, mais le budget du gouvernement italien a provisionné en face 30 milliards. Donc, c'est vous dire qu'il y a quand même une différence. De la même manière, il y a des reports de ce qu'ils appellent les charges, hein, les cotisations sociales, l'impôt, qui ne sont pas exactement des charges, qui sont des cotisations. Hein. Bon, ces reports, c'est des reports, ce n'est pas des annulations, etc. Donc, pour une part, ces chiffres sont fictifs. Mais il y a plus, camarades, il y a plus. Il faut dire que plusieurs choses. Hein. La première chose qu'il faut dire, c'est que, lorsque les gouvernements distribuent le pognon comme ça aux entreprises petites et grandes, évidemment, ils évitent dans un certain nombre de cas les faillites immédiates. Hein. Bon, en particulier pour les petites entreprises. Bon. Ils évitent, mais pas seulement d'ailleurs les petites, parce que c'est aussi un certain nombre de grosses. Hein. Ils évitent les faillites immédiates, mais évidemment le fait d'éviter la faillite immédiate, ça ne résout absolument pas le problème de fond, parce que le problème de fond, c'est le problème de la demande, c'est le problème de retrouver un marché, de retrouver des clients, etc. etc. Et ça, ce n'est pas résolu par le fait que vous balancez des liquidités. Hein. Et de ce point de vue-là, c'est absolument pas, ces plans n'ont absolument pas le pouvoir de relancer la demande économique. Puis deuxièmement, il y a une chose qu'il faut remarquer, hein, c'est que le financement des États, il se fait par la dette. Hein. Alors, on nous a expliqué pendant des années que la dette, oh là là, il en fallait faire très, très attention parce qu'au-dessus de, etc. Et puis là, on a vu qu'ils ont tous décidé que, bon, y compris au niveau européen, le pacte de stabilité, on le passait par-dessus bord et qu'on allait faire de la dette, de la dette, de la dette. D'ailleurs, bon, y compris Philippe, il a annoncé en France 115% du PIB en dette. D'ailleurs, probablement, ça sera bien davantage. Mais finalement, au bout du compte, qui finance cette dette des États? Les États eux-mêmes, ils empruntent où? Ils empruntent à qui? En dernière analyse, ils empruntent aux banques centrales. Alors, par l'intermédiaire d'autres banques, mais au bout du compte, ils empruntent aux banques centrales. Mais les banques centrales, elles trouvent le pognon où? Hein? Les banques centrales, elles trouvent le pognon en fabriquant de la monnaie, en faisant de la création monétaire, en gonflant leur bilan, en achetant des obligations d'État à gogo, etc. etc. Et ça, camarades, les conséquences de ça, hein, les conséquences de cette production monétaire hein, à gogo, sans qu'évidemment il y ait une production réelle de richesse en regard, hein, bon, personne ne sait très bien jusqu'où ça peut durer et combien de temps ça peut durer. Hein, et personne n'en mesure exactement les conséquences. Normalement et en théorie, mais c'est en théorie, lorsque vous produisez des masses énormes de monnaie sans qu'il y ait production de marchandises d'un autre côté, le résultat à attendre, normalement, c'est l'inflation. Mais ça sera peut-être plus compliqué que ça, parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent en sens contraire. Hein. Par exemple, l'effondrement de la demande, à l'inverse, peut provoquer la déflation. Et le plus probable, d'ailleurs, c'est qu'on aura à la fois inflation et déflation, c'est-à-dire inflation d'un certain nombre de produits. Hein, par exemple les produits de première nécessité pour les masses, et d'autre part, il peut très bien y avoir déflation d'un certain nombre de produits, tels qu'on le voit par exemple aujourd'hui pour le pétrole. J'en viens, camarades, à la situation en France, et je reconnais que l'appréciation de la situation de la dépression économique, elle reste extrêmement limitée, mais en tout cas, il y a un truc, c'est qu'elle est d'une sensibilité tragique, dès maintenant, pour les larges masses, pour les travailleurs, pour les prolétaires et même pour les sous-prolétaires. Camarades, vous avez tous entendu parler, par exemple, hein, de la situation en Inde, où s'agglutinent dans les grandes villes de l'Inde des millions de prolétaires qui viennent des campagnes en cherchant dans les villes des emplois journaliers, etc., que ces emplois journaliers, ils n'ont plus pu les occuper à partir du moment où le gouvernement a décidé le confinement et le couvre-feu, et où, par conséquent, ces millions d'Indiens ont cherché à retourner dans leur campagne où, malgré tout, ils étaient moins certains de mourir de faim que dans les bidonvilles où ils s'entassent et où ils n'ont plus strictement plus aucune ressource. Et d'ailleurs, les affrontements extrêmement violents hein, qu'il y a eu de ce point de vue-là entre ces masses affamées et la police. Et la police de, comment il s'appelle Modi, je pense que ce n'est pas tout à fait une plaisanterie. D'ailleurs, il suffit de regarder les images à la télévision pour s'en convaincre. J'en arrive à la situation en France. Alors, la réalité du capitalisme français, elle ne peut pas être meilleure que la réalité du capitalisme. La situation du capitalisme français ne peut pas être meilleure que la situation du capitalisme mondial. Et si on voulait vraiment faire une comparaison, elle est plutôt pire. Moi, je dirais qu'on peut déjà apprécier la situation du capitalisme français à travers la loupe grossissante de la crise sanitaire. Hein. Quand même, quel bilan, quoi. Plus d'entreprises capables de produire des masques, plus d'entreprises capables de produire des respirateurs, plus de laboratoires, pas de laboratoires capables de fabriquer des tests, pas une entreprise capable de produire en quantité suffisante, ou même de produire tout court d'ailleurs, les médicaments dont on a besoin en urgence dans les hôpitaux, parce que les composants de ces médicaments sont produits en Chine, parce que les entreprises qui produisaient ces médicaments ont été fermés au cours des décennies précédentes, etc. Ça, c'est déjà une certaine appréciation de la situation. On voit que des secteurs entiers, notamment dans la distribution, hein, puisque évidemment, ils sont directement aux premières loges lorsque la consommation s'effondre, hein, on voit que d'un certain nombre de secteurs de la distribution, on assiste déjà à des faillites et à des effondrements, hein, ça a été les chaussures André, les vêtements Lal, etc., etc. De manière particulièrement spectaculaire et symbolique, la décision de fermer un ou deux, je ne me rappelle plus, des hauts fourneaux à Fos-sur-Mer, hein, décision d'ArcelorMittal, hein, et puis le fait qu'on nous annonce que un certain nombre d'entreprises, et non des moindres hein, quand même, en France, sont littéralement, et là je ne fais pas un jeu de mots par rapport à la situation aux hôpitaux, dans les hôpitaux, sont désormais sous assistance respiratoire, elles aussi, de l'État. Je pense à Air France et je pense demain à Renault. Dans cette situation, camarades, et là j'en viens à la deuxième ou dernière partie de mon exposé, la grande bataille de la bourgeoisie française et par conséquent du gouvernement Macron aujourd'hui, c'est la bataille pour la reprise du travail. Il faut absolument que les travailleurs, les ouvriers en particulier, retournent au turbin. D'ailleurs, cette bataille, ce n'est pas une bataille qui est propre à la bourgeoisie française. C'est une bataille qui est celle de toutes les bourgeoisies et de tous les gouvernements bourgeois à travers le monde. Hein? Vous avez vu, vous avez regardé à la télévision ces manifestations complètement organisées en sous-main, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment en sous-main? Assez ouvertement, au bout du compte, par Trump lui-même, sur le terrain quand même, l'Amérique c'est le pays de la liberté, vous n'allez pas nous faire chier avec le confinement, hein, bon, etc. Vous avez tous vu ce genre de manifestations qui correspondent complètement aux intérêts des capitalistes américains par ailleurs. Hein. On présente Trump comme un cinglé, mais ce n'est pas du tout un cinglé dans cette affaire. C'est lui qui représente de manière la plus conséquente les intérêts du capital américain. Et d'une autre manière, c'est la même bataille qui est menée en Allemagne, en Italie, dans tous les pays d'Europe, en Chine évidemment, etc. Bon. Et en France, de ce point de vue-là, pourquoi la bataille pour la reprise du travail? Tout simplement parce que, je veux dire, pour que le profit se réalise, il faut que la plus-value soit extraite. Pour que la plus-value soit extraite, excusez-moi d'être simple, hein, pour que la plus-value soit extraite, il faut que les ouvriers ils aillent au turbin, quoi, hein. C'est aussi simple que ça. Alors, ça peut être simple et compliqué d'ailleurs, parce que par ailleurs, c'est bien joli que les ouvriers produisent la plus-value, mais encore faut-il réaliser le profit. Alors ça, il faut qu'il y ait des clients, hein. Ça, c'est peut-être une autre paire de manches, hein. Je regardais la télévision hier, la reprise du travail à Toyota Valenciennes, où ils avaient d'ailleurs choisi, ils avaient sélectionné savamment les ouvriers qu'ils interviewaient, qui étaient évidemment très contents, ravis, mais ouais, c'est formidable, on reprend. Mais bon, le patron, il disait, oui, ben, on reprend de manière limitée, ben oui, on répond pour répondre à la demande, mais la demande, elle n'est pas absolument extraordinaire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que ça reprenne. Bon, et Michelin a donné le là, le confinement ne peut pas être éternel. Et Geoffrey de Bézieux, le patron du MEDEF, il a dit la même chose, reprendre partout où c'est possible. Alors, et bien sûr, Macron, représentant et de Michelin et de Geoffrey de Bézieux à la tête de l'État, a annoncé, lors de sa dernière conférence de presse, je ne me rappelle plus, en milieu de semaine dernière, je ne me rappelle plus, je me rappelle plus, vous vous souviendrez de la date, il a dit, eh bien, je l'annonce officiellement, la fin du confinement, c'est le 11 mai. Et bon, il n'a même pas fait semblant de faire croire que la fin du confinement, c'était le 11 mai, parce que le 11 mai, on avait grosso modo réglé la question de la pandémie. Non, non. Bon, en tout cas, il y en a un qui a bien dit que c'était pas lié, de manière très claire, c'est Philippe. Philippe, lui, il a dit, il a parlé pendant deux heures et demie. Et il y a un journaliste qui saisit d'un accès d'indépendance, j'espère, je ne sais pas s'il va le payer, il a dit, ouais, Philippe et Véran, ils ont parlé pendant deux heures et demie, mais au fond, tout ce qu'ils ont dit, ça peut se résumer en une phrase et en cinq minutes, à peine cinq minutes, c'est qu'il va falloir s'habituer à vivre avec le virus. À vivre, et j'ajouterai, et à mourir éventuellement. Mais grosso modo, c'est pas parce que l'épidémie est, comment dirais-je, jugulée, qu'on va pouvoir reprendre le boulot. C'est parce que c'est nécessaire à l'économie capitaliste. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde l'évolution de la pandémie, camarades, bon, alors je veux bien admettre, si vous voulez, encore que sur les chiffres, on puisse toujours discuter, hein, mais enfin, je veux bien admettre qu'il y a un plateau et que peut-être même il y a une légère baisse sur ce plateau, mais enfin, grosso modo, à ma connaissance, le dernier chiffre dont je dispose, hier, c'était encore plus de 500 morts par jour. Hein. Bon, donc, ce n'est pas vraiment une maîtrise de la pandémie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, camarades, j'en viens à la position des appareils syndicaux, parce que, je veux dire, pour aujourd'hui, je résumerai les choses comme ça. Pour aujourd'hui, que l'ouvrier Michelin, l'ouvrier de chez Toyota, l'ouvrier du bâtiment et l'ouvrier de toutes les entreprises de France, il accepte de retourner au boulot dans des conditions où, où il sait qu'en aucun cas sa sécurité sanitaire est assurée, où il sait qu'il le fait au risque de sa santé, dans le meilleur des cas, de sa vie, dans le pire des cas, et bien pour le convaincre d'y aller, il faut le même dispositif politique qu'il fallait en 1914 pour convaincre le jeune ouvrier, le jeune paysan, d'aller se faire tuer pour le capitalisme français sur les tranchées en Lorraine ou dans la Marne. Donc il faut l'union nationale, il faut l'union sacrée. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que le leitmotiv hein, de tous les discours de Macron, c'est l'union de la nation, l'union nationale, l'union sacrée. J'ai déjà dit ce qu'il fallait penser dès le départ, quand j'ai analysé les raisons hein, de la crise, ce qu'il fallait penser de cette union sacrée. Mais est-ce que l'appel à l'union sacrée a été entendu dans le sommet des organisations qui se réclament des travailleurs? Alors, je passe même sur l'Assemblée nationale et le Sénat, où d'ailleurs les représentants d'organisations qui auraient un lointain passé, une lointaine histoire en rapport avec le mouvement ouvrier, sont quand même maintenant plus que minoritaires. Mais de toute façon, s'agissant du PS et du PC, ils ont fait le boulot, hein. La loi d'urgence sanitaire, camarade, qui quand même n'est pas n'importe quoi, hein, n'importe quoi. La possibilité de faire travailler les ouvriers 60 heures par semaine, la possibilité de se livrer à un véritable vol des congés des travailleurs sous la forme de congés annuels ou sous la forme de réduction du temps de travail, etc. C'est une violence incroyable, c'est la destruction de tout ce qui demeure du Code du travail. Eh bien, camarade, il s'est trouvé au Sénat, où il y a des sénateurs PSBC, au total, il y a eu deux voix contre cette loi. Deux voix contre. Hein. Et à l'Assemblée nationale, le PS s'est abstenu. Quant au Parti communiste français et la France insoumise, que je ne place pas exactement sur le même plan, hein, ils ont voté contre avec une argumentation singulière. Ils ont dit, sur le fond, on n'est pas contre la loi d'urgence sanitaire, mais malgré tout, ça doit être une mesure d'exception, donc il faut pouvoir la remettre en cause et la rediscuter plus périodiquement, plus rapidement que ce que propose le gouvernement. Donc ce n'était pas véritablement une objection de fond. Je prends maintenant la deuxième loi de finances rectificative. Hein, 110 milliards pour les entreprises, 2 milliards pour le système de santé, et s'il vous plaît, les pièces jaunes, 150 euros par ménage au-dessous de 1200 euros par mois. Bon. PS pour, PCF abstention. LFI, il vote contre, mais alors c'est extraordinaire Mélenchon parce qu'il vote contre en expliquant toujours en même temps pourquoi il est à fond pour l'Union sacrée, pour l'Union nationale et qu'il ne manquera pas à l'appel, etc., etc. Bon. Ça, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais il y a surtout la question des organisations syndicales, qui est une question parfaitement décisive. J'avais lu avec un peu d'humour, enfin, moi je me marrais, mais l'humour était celui du journaliste, qui parlant du rapport entre le gouvernement et les directions syndicales depuis le début de la crise du coronavirus, commençait cet article par cette phrase: Ils ne se quittent plus. Ils ne se quittent plus. C'est-à-dire que Macron, il consulte Martinez, Verrier, etc. Berger, bien sûr, mais Berger, enfin, il est en osmose. Hein. Bon, il les consulte très régulièrement. Et d'ailleurs, indépendamment des prises de position théoriques sur la loi d'urgence sanitaire, mais aucune organisation syndicale s'est prononcée pour le retrait de cette loi d'urgence sanitaire, la vie réelle montre que dans les entreprises, alors, il y a toute une série d'entreprises qui sont citées, Bouygues, Thalès, etc., pas des petites boîtes, hein, des grosses boîtes, etc. Les accords de mise en œuvre de la loi d'urgence sanitaire ont été contresignés par tous les dirigeants syndicaux, y compris la CGT. Mais la question décisive aujourd'hui, c'est la question évidemment de la position par rapport à la reprise du travail le 11 mai. Le gouvernement, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, il a montré qu'il était prêt à payer le prix de l'union sacrée, de l'union nationale. Il a annoncé la suspension de la réforme des retraites et de la réforme de l'assurance chômage, de l'indemnisation chômage. J'espère que personne parmi vous n'expliquera, mais ça, j'imagine pas que ce soit même possible, que cette suspension est une grande victoire du mouvement ouvrier, quoi. Les conditions dans lesquelles la réforme est suspendue l'indiquent assez bien ce dont il s'agit. Hein. D'ailleurs, il s'agit d'une suspension, bon, ou plutôt, comme dit Verrier, qui est un homme qui sait parler, il s'agit, dans la période que nous vivons et où nous avons besoin d'être unis, je cite Verrier là, il faut mettre de côté la réforme des retraites, la mettre de côté. Hein. Bon. Et il y a eu un épisode, donc, et d'ailleurs, bon, Philippe, il a expliqué, mais non, en ce moment, on met ça de côté parce qu'on a mieux à faire, et il y a plus urgent, et il y a plus pressé, et on a besoin de tout le monde. Bon. Et il y a eu un épisode, qui n'est pas terminé d'ailleurs, hein. Et cet épisode, c'est l'épisode de la déclaration de Geoffrey de Bézieux, dirigeant du MEDEF, sur le terrain. Attention, attention, je vous l'annonce dès maintenant, hein, pour le jour d'après, comme on dit aujourd'hui, eh ben, il faudra plus de temps de travail, moins de congés, etc. Bref, une offensive en règle. Et par rapport à cette offensive en règle, On a vu, avec étonnement, peut-être dans un premier temps, on a vu le maire sermonner Geoffrey de Bézieux en disant non, 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 on ne peut pas parler comme ça. On a vu Berger, qui est quand même le sherpa du gouvernement, dire non, 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 ça ne va pas du tout, c'est indécent, etc. Et puis il a rajouté au milieu d'une phrase, de toute façon, ces questions-là, d'augmentation du temps de travail et de réduction des congés, ça se fait au niveau de la négociation d'entreprise. Autrement dit, ce n'est pas la peine de faire une espèce d'agiter un espèce de chiffon rouge. Hein. On a mieux à faire. Mieux à faire, ça veut dire organiser la reprise du travail pour le 11 décembre. Alors, on me rectifie à juste titre le 11 mai. Alors, si vous voulez, dans un premier temps, par rapport à cette reprise du travail le 11 mai, ou plutôt avant que Macron annonce la reprise du travail le 11 mai, les dirigeants syndicaux, ils faisaient plutôt, plus ou moins, enfin oui, quand même, formellement, un distinguo entre les secteurs essentiels où il fallait bosser, et puis les secteurs qui n'étaient pas essentiels, où il n'était pas nécessaire de reprendre le boulot. Et, camarades, cette distinction, y compris dans le langage des dirigeants syndicaux, elle a disparu. Elle a disparu, et aujourd'hui, la direction de la CGT cite en exemple de bon accord, de bon protocole de reprise du travail, le protocole qui a été signé dans l'entreprise But. Alors But, c'est l'ameublement. On ne peut pas vraiment dire que c'est l'urgence absolue, l'ameublement. Hein. On peut se passer 15 jours de plus de meubles, ce n'est pas quand même bon. Et bien évidemment, ces protocoles, c'est des protocoles qui prétendent définir les bonnes conditions sanitaires à la reprise du travail le 11 mai. D'ailleurs, un camarade me faisait passer un document de la CGT qui disait, à propos du 11 mai, certes, un mois de plus, c'est long. Autrement dit, il y a urgence à ce que le travail reprenne. Mais, bien évidemment, l'alibi ou l'argument qui est donné, c'est oui, reprise le 11 mai, mais des conditions sanitaires, hein, des conditions sanitaires. Ça, camarade, c'est un numéro de faux cul extraordinaire. On sait que les conditions sanitaires, elles ne seront jamais remplies. D'ailleurs, y compris les ouvriers, et même les patrons d'ailleurs, du bâtiment disaient, mais dans le secteur du bâtiment, les conditions sanitaires, c'est zéro, ça n'existe pas. Les gars, ils portent un tuyau à deux, ils sont à deux dans le camion, il n'y a pas de conditions sanitaires, il n'y a pas de distance de sécurité, distance barrière, ça n'existe pas. Si les gars, ils bossent, ils prennent le risque de choper le virus, c'est une absolue certitude. Donc l'histoire des conditions de sécurité pour éviter la diffusion du virus, c'est du pipeau complet. Hein. La vérité, c'est que la négociation, elle se fait, puis les gars reprennent, et puis bon, voilà. Et évidemment, je dirais que tout se concentre sur la question de la rentrée, non pas de la rentrée scolaire, mais de la réouverture, parce que les enseignants n'ont jamais cessé de travailler, de la réouverture des établissements scolaires. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses sur la réouverture des établissements scolaires. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, parce que là, quand même, c'est bien un aveu, c'est que cette réouverture, elle concerne l'école primaire, le collège, le lycée, elle ne concerne pas l'université. Tiens, c'est bizarre. Parce que le virus, il circule moins, ou il circule plus, plutôt, parmi les étudiants, parmi les lycéens, collégiens, voire les enfants du primaire. Or, je sais qu'il y a des scientifiques aux ordres qui, immédiatement après Macron ait parlé de reprise scolaire le 11 mai, ont découvert que les enfants, finalement, ils véhiculaient pas tellement le virus, quoi. Mais bizarrement, ces découvertes, elles sont postérieures. Bon. Mais enfin, bon, si on ne rouvre pas les universités et qu'on rouvre les autres établissements scolaires, c'est pour une raison très simple que tout le monde a compris. C'est parce que un étudiant, ça se garde tout seul, hein, ça n'a pas besoin de son papa et de sa maman pour le garder. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que les mômes soient à l'école pour que les parents puissent retourner au turbin. C'est aussi simple que ça. Les raisons, elles sont purement économiques. Alors, l'enveloppement sur le terrain, il faut reprendre dans les établissements scolaires, parce que, voyez-vous, les jeunes d'origine populaire, ils n'ont pas pu participer au téléenseignement parce qu'ils n'ont pas les ordinateurs. C'est vrai, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas les ordinateurs. Mais là, l'argument, l'argument, c'est un argument complètement tartuffe. Hein. Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il faut que le boulot reprenne. Et là aussi, camarades, eh bien, Blanquer, il a lourdement insisté. La reprise à partir du 11 mai, alors c'est le 11 mai dans les écoles primaires, le 18 mai dans les collèges et lycées, etc. Cette reprise, elle doit se faire en concertation avec les représentants des organisations syndicales. C'était dit encore plus nettement dans un article de La Montagne par le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand, qui y a beaucoup insisté. Bon. Et dans cette dernière... Alors, ça, c'est la première chose. La première chose, c'est que, bon, la raison de la réouverture le 11 mai et pourquoi en primaire, en collège et en lycée, pas à l'université. La deuxième remarque que je voudrais faire, alors elle m'est venue à la lecture ce matin de la dernière publication du Café Pédagogique, dans lequel il y a pas mal d'informations. Bizarrement, la reprise, elle ne sera pas obligatoire. Elle ne sera pas obligatoire. Alors, depuis maintenant un siècle et demi ou presque, l'école, elle est obligatoire. Et quand l'école est ouverte, tous les enfants doivent s'y rendre. Ben là, non. Là, l'école, elle n'est pas obligatoire. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'école, elle n'est pas obligatoire? Ben, ça veut dire une chose simple, mes camarades. Ça veut dire que pour les fils de prolétaires, de travailleurs d'une manière générale, qui sont obligés d'aller bosser, ben, il n'y a pas d'autre solution que les gosses, ils aillent à l'école, hein. À l'école, au collège, au lycée. Quant aux familles bourgeoises, ou même aux petits bourgeois qui ont un petit peu de possibilités, eh bien, là, il en sera autrement. Alors là, j'entends de la musique en fond, là. C'est pas terrible. Les enfants de bourgeois, eux, ils n'iront pas à l'école, ce qui évitera qu'ils transmettent le virus dans les familles de la bourgeoisie. Mais enfin, le coup que l'école n'est pas obligatoire, quand même, ça mérite d'être relevé. Et puis, il y a une chose qui m'intéresse, c'est la réaction à la conférence de presse des appareils syndicaux. Et alors, bon, est-ce parce que je suis membre de ce syndicat, ou plutôt est-ce parce que ce syndicat demeure le principal syndicat dans l'enseignement secondaire? Je me suis intéressé à la réaction de Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, Syndicat National de l'Enseignement Secondaire. Qu'est-ce qu'elle répond, Rollet? Je suis irrité de la méthode. On a eu une audition où le ministre n'a rien dit. Là, il s'exprime de façon précise. Il affirme que les conditions sont réunies juste avant la réunion du CHSCT, Comité Hygiène et Sécurité. Pour elle, les propos de Blanquer sont imprudents. Elle souligne ce qui ne fonctionne pas dans les annonces comme les ateliers industriels où la distanciation est impossible, ou l'annonce des classes à 15 élèves sans tenir compte de la circulation dans les parties communes. Vous voyez qu'on est dans le détail, hein, dans le détail de la mise en œuvre. Sur les garanties sanitaires, le ministre n'a rien dit. Il faut d'abord fixer un protocole national, vérifier auprès des collectivités locales qu'elles sont capables de fournir le matériel nécessaire et après voir seulement comment on fait avec les élèves. Bon, je ne veux pas commenter mot par mot la déclaration de Rollet, mais qu'est-ce qu'elle dit Rollet? Elle dit Blanquer, comme on disait quand j'étais jeune et que je jouais au football, Blanquer, tu joues perso. C'est-à-dire que la réalité, c'est que le 11 décembre, faut qu'on mette ça en œuvre ensemble. Hein. Et c'est exact. Parce que quand elle dit « je suis irrité de la méthode », elle dit en creux « je ne suis pas du tout irrité du fond, je ne suis pas du tout irrité de l'objectif hein. ». Et donc, on voit que là aussi, les dirigeants syndicaux, ils sont complètement inscrits dans l'opération visant à ce que coûte, le travail reprenne le 11 mai. Alors, camarades, cette bataille de la bourgeoisie en France, mais à l'échelle internationale, pour faire reprendre le boulot aux mecs au risque de leur santé, au péril de leur santé, voire de leur vie, ce n'est pas une bataille française, je l'ai dit. Et il ne faut pas croire que ça passe comme une lettre à la poste. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a eu des réactions dans la classe ouvrière importantes, un peu moins en France que dans d'autres pays voisins, mais des réactions importante. En Italie, à deux reprises, il y a dû y avoir de longues concertations entre Le gouvernement, la Confindustria, qui est le MEDEF italien, les dirigeants syndicaux, en particulier ceux de la CGIL, qui est l'équivalent de la CGT en France, etc., pour, c'est toujours le même discours, définir les vraies conditions sanitaires qui permettaient aux mecs de retourner au boulot, parce qu'au boulot, ils ne voulaient plus y aller, et ils n'y allaient plus dans un certain nombre de secteurs. Bref, ils étaient en grève. Ils étaient en grève. Et il a fallu qu'ils s'y reprennent à deux fois, et à un moment donné, visiblement, ce qui était en cause, c'était la possibilité que l'Italie bascule dans la grève générale. Hein. Et ça, je crois qu'il faut le dire, même si ça, c'est difficile de le trouver dans la presse. Et de la même manière, en Espagne, malgré le soutien complet au gouvernement Sanchez, des dirigeants de la commission ouvrière et de l'UGT, il y a eu des grèves relativement importantes hein, dans l'aéronautique, Airbus, dans l'automobile, je crois que c'est Volkswagen, etc., hein, dirigés parfois par des syndicats, par exemple, à Vitoria, c'était un syndicat basque, etc., mais il y a eu des grèves, c'est-à-dire que les mecs ne voulaient pas servir de chair à virus. Et même en France, je concède que ça a été plus limité, mais il y a eu des grèves, hein, il y a eu des grèves significatives, il y a eu le fait que les travailleurs des chantiers navals de Saint-Nazaire, ils ont obtenu que l'usine, l'entreprise s'arrête. Hein. De la même manière, il s'agit quand même d'une usine de 1500 ouvriers chez Bosch, dans l'Aveyron, si je ne me trompe pas. À plusieurs reprises, les ouvriers, par la grève, ont imposé le report de la reprise de l'usine. Donc, c'est important de le dire parce que la classe ouvrière, elle est quand même pas, elle est sans doute désemparée, ça j'en doute pas une seconde, mais elle n'est pas non plus inerte. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'enseignement est quand même assez significatif. C'est significatif, d'abord, les enseignants qui n'ont pas cessé de bosser, ils n'ont pas envie de retourner bosser en établissement. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le succès d'une pétition dont je ne connais pas l'origine par ailleurs, mais d'une pétition qui a été signée par plus de 100 000 travailleurs, donc essentiellement des enseignants, j'imagine, contre la reprise le 11 mai, ça signifie quand même qu'il y a, de ce point de vue-là, un véritable écho sur cette question. Et alors ça, c'est tout récent, je viens de l'apprendre. Quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous en citer des extraits. C'est qu'il y a même, dans un certain nombre de cas, un véritable affrontement entre les enseignants, y compris les militants syndicaux, y compris des militants syndicaux relativement proches de l'appareil, et l'appareil lui-même, sur la question de la reprise du 11 mai et 18 mai dans l'enseignement. Quand on a commencé à dire un truc de travers, on le dit tout le temps. Donc, chaque fois que je dis 11 décembre, vous avez compris qu'il s'agissait du 11 mai. J'en veux pour preuve, et je reviens à mon propos, l'affrontement qui est pas vraiment, qui fait pas vraiment dans la tendresse entre le secrétaire académique du SNES d'Aix-Marseille et un certain nombre de militants syndicaux de la même académie. Je citerai le bureaucrate syndical d'Aix-Marseille après seulement. Je vais commencer à citer un syndiqué. Hein, peut-être même un secrétaire de S1, je ne sais pas, ça, qui interpelle le dirigeant syndical en l'appelant Laurent. Alors, je n'ai jamais su si c'était de l'humour, de l'ironie, ou si simplement que c'est quelqu'un qui connaît bien et qui l'appelle par son prénom. Et voilà ce que répond ce syndiqué à Laurent. Laurent, c'est Laurent Tramoni, le secrétaire académique du SNES. À présent que Laurent, l'individu, parce que Laurent, il disait... Voilà mon point de vue, mais c'est mon point de vue individuel. Le gars, brutalement, il n'était plus secrétaire académique. À présent que Laurent, l'individu, a donné son point de vue, dans une vision très martiale de la République et du fonctionnariat, plus proche de LREM ou de LR que des principes démocratiques et sociaux prônés par la FSU, vous voyez qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, puisqu'il dit au mec, ce que tu racontes, c'est exactement ce que dit LR ou LREM. J'attends que le secrétaire académique du SNES-FSU, toujours Laurent donc, s'exprime et nous propose très rapidement un plan d'attaque pour contrer cette ahurissante mise en danger des personnels de l'éducation nationale, des élèves, de leurs familles, de l'ensemble de la population que Blanquer vient de détailler. Maintenant, et il précise le gars, maintenant que l'illusion des conditions, les fameuses conditions sanitaires, est dissipée, et que Blanquer, sans vouloir mettre son plan à exécution coûte que coûte, en se passant de toute concertation, là il se trompe, il nous faut organiser les collègues par la grève et la désobéissance, répondre à leur grande colère et à leur angoisse, pour eux et leurs proches en lien avec les élèves, les familles, mais aussi tenter d'impulser un mouvement d'ensemble des personnels des secteurs vitaux mis en danger par manque de protection et de moyens élémentaires et des salariés des secteurs non vitaux sacrifiés. Les soignants nous enjoignent de rester chez nous depuis un mois. Aucune récession significative de la pandémie, vaccin ou thérapie ne peut justifier un déconfinement. 600 personnes meurent chaque jour du Covid et 10 000 depuis un mois. Prendre le risque d'une seconde vague mettrait l'ensemble de la société à genoux, y compris les institutions si chères à Laurent, l'individu, que leur survie passe avant celle des personnels, des élèves et de la population. On ne peut pas vraiment dire que le gars, il y va doucement. Et voilà ce que Laurent Tramoni, le dirigeant syndical, avait écrit. Défendre les collègues, c'est exiger que les conditions de la santé publique soient réunies, nous ne cessons de le dire. C'est aussi promouvoir le rôle et l'utilité sociale de nos métiers. Nous ne sommes pas des cafetiers, des indépendants qui pourraient décider de garder leur échoppe fermée s'il est dié. Nous sommes des travailleurs tout autant soucieux de l'intérêt général et disponibles au bien commun que les caissières, les éboueurs, les soignants, les dockers, les traminaux. Donc on doit faire comme les caissières, les éboueurs, etc., qui eux sont obligés de bosser, on doit y aller. J'en passe et des meilleurs qui sont en première ligne malgré l'épidémie. Et il précise, pour que vous compreniez bien, quand l'économie est à l'arrêt, il n'y a pas que le patronat qui se trouve dans la difficulté. Ce sont toujours les salariés qui trinquent en premier, et parmi eux les plus précaires. Du coup, d'ailleurs, le Laurent, il explique bien que la reprise, c'est au nom du fait que l'économie cesse d'être à l'arrêt. Lui, quand même, il dit les choses. Et alors, après, bon, mais je vous le passe, il fait un grand numéro sur le fait, reprenons d'ailleurs strictement ce que dit Macron et Philippe, le fait que les familles les plus pauvres, ceux qui n'ont pas accès aux apprentissages, n'ont plus accès à l'infirmière scolaire, à l'assistante sociale, à la vie scolaire, qui les aident dans leur démarche, etc. etc. Hein. Bon, et il précise, pour bien comprendre qu'il faut vraiment reprendre le boulot, il n'y aura pas de vaccin avant au bas mot un an. Il n'y aura pas de vaccin avant au bas mot un an. Sommes-nous en train de dire qu'il faudrait que le confinement et la fermeture des établissements scolaires durent jusque-là ? Nous voyons bien que tout cela n'aurait pas de sens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le dirigeant du SNES, là, lui, il fait le boulot et il explique franchement, oui, mais les gars, vous êtes gentils, mais maintenant, il faut y aller, hein, faut y retourner au boulot, etc. Mais en même temps, j'ai commencé par la réaction de ce collègue, mais il y en a d'autres. Hein, dans l'échange de courrier, il y a d'autres réactions de collègues qui disent la même chose et qui apportent des éléments, sur le même ton d'ailleurs, extrêmement vindicatif et véhément, sur le terrain, nous, on ne veut pas y retourner, hein, dans ces conditions. Alors, camarades, je vais arriver à ma conclusion, il est temps d'ailleurs, hein, c'est évidemment le béaba de la politique, d'une politique révolutionnaire, que de dire, pas de reprise le 11 mai, y compris sous le prétendu prétexte que les conditions sanitaires seront réunies, puisque ça c'est du pipeau, hein, et par conséquent l'exigence adressée aux dirigeants de rompre la concertation et la co-organisation de la reprise du 11 mai. Mais au-delà, et je termine d'un certain point de vue par ce par quoi j'avais commencé, on se rend bien compte que la situation politique présente, elle pose toutes les questions politiques à un niveau le plus élevé. Et elle les pose à travers une question qui n'avait pas été bien présente, hein, durant ces dernières années, voire ces dernières décennies. Elle pose la question de ce que j'appelle le contrôle ouvrier. Le contrôle ouvrier comme mot d'ordre de transition. Hein. Parce que, camarades, si on pose la question des besoins dans le domaine de la santé, des masques, des respirateurs, des médicaments, des personnels, pour soigner, hein, eh bien, on pose la question de qui a le pouvoir de décider de ce qui est nécessaire pour une lutte efficace et effective contre la pandémie. Et évidemment, on pose évidemment la question de la réquisition, aussi bien au niveau des établissements de soins, au niveau des établissements privés, dont moi je ne suis pas loin de penser que la pandémie actuellement est une opportunité questions sur la sécurité sociale, puisqu'il y a un certain nombre d'interventions chirurgicales qui ne peuvent plus, à cause du Covid, être faites dans le cadre de l'établissement, des établissements publics, qui sont donc faits dans les établissements privés, avec les conditions, y compris de surfacturation, qui sont celles des établissements privés. Donc, la vraie réquisition, c'est le fait que les établissements privés, eh bien, les travailleurs décident de comment ces établissements contribuent effectivement la lutte contre la pandémie. De la même manière, camarades, la réquisition des entreprises pour fabriquer des masques, des respirateurs, etc., etc., c'est autre chose que les petites opérations de communication de merde, je les appelle comme ça, auxquelles se livre Michelin sur les masques, auxquelles se livre PSA sur les respirateurs, où on met avec les télévisions plein pot hein, quelques dizaines d'ouvriers hein, pour fabriquer des masques ou des respirateurs s'agissant de PSA. Hein, c'est évidemment rien à voir avec les besoins réels qu'exige la lutte contre la pandémie. Bien, donc, si vous voulez, je continue, hein, c'est la classe ouvrière qui doit devoir établir ce qui est aujourd'hui, du point de vue des activités essentielles à la survie sociale, et ce qui peut sans dommage s'interrompre, et je ne suis pas sûr que l'entreprise But, n'en déplaise à Martinez, fasse partie des entreprises qui ne peuvent pas sans dommage s'interrompre, hein, ça doit être les travailleurs qui décident hein, dans quelles conditions sanitaires doivent travailler les secteurs essentiels à la survie sociale, puisque ces secteurs existent bien évidemment. Hein, bien. Donc, évidemment, si on pose la question du contrôle ouvrier, dans le cadre d'un programme ouvrier, on pose évidemment, parce que le problème du contrôle ouvrier, il pose immédiatement la question de la propriété, hein. Parce que si les ouvriers contrôlent dans l'usine, au bout d'un moment, le problème, c'est savoir à qui appartient l'usine. Il pose la question de la propriété, c'est-à-dire que, si vous voulez, toute la situation pose le problème de la propriété sociale des moyens de production, pose le problème du socialisme. Et en même temps, la propriété sociale des moyens de production, elle pose bien évidemment la question du pouvoir politique, du pouvoir d'État, donc d'ailleurs du démantèlement de l'appareil de répression de la bourgeoisie. Et c'est un aspect sur lequel je n'ai pas insisté, mais vous avez tous remarqué, camarades, comment la pandémie est l'opportunité pour les gouvernements de la bourgeoisie de s'en prendre, avec quelle violence, sur tout ce qui reste, tout ce qui subsiste de liberté démocratique. Illustrant le fait d'ailleurs qu'au bout du compte, la survie du mode de production capitaliste va très rapidement devenir incompatible avec l'existence de toute espèce de liberté démocratique. Je lisais un article dans Le Monde là, sur l'Algérie, où ils expliquaient que jamais la répression contre les militants qui avaient été les militants du Irak, hein, jamais cette répression n'avait été aussi violente, c'est-à-dire que c'est une opportunité hein, pour le gouvernement, pour le pouvoir algérien de démultiplier la répression. D'ailleurs, je dirais que le concentré de la façon dont la pandémie est utilisée pour renforcer l'État policier, l'appareil de répression, ce concentré, il est dans l'histoire du tracking, hein, c'est-à-dire la géolocalisation, là, c'est-à-dire le fait que finalement, je dirais que les cauchemars les plus terribles évoqués par Orwell dans 1984 sont en train de devenir une réalité. Et le fait que quand même, au moment même où on veut contraindre les ouvriers à retourner au boulot, dans le même temps, eh bien, au nom de la lutte pour le confinement, c'est dans les banlieues, la chasse aux jeunes, la chasse aux immigrés qui est organisée. Alors, je termine tout à fait. Les appareils syndicaux aujourd'hui font signer une pétition qu'ils appellent le jour d'après. Alors il faut le dire, camarades, le jour d'après dans le cadre de la société capitaliste, c'est un jour qui est 100 fois pire que le jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, quand les dirigeants syndicaux parlent du jour d'après, c'est aussi pour nous faire avaler le jour d'avant, le jour d'après, c'est-à-dire le jour d'aujourd'hui. Hein. Bon, mais dans la pétition des appareils syndicaux, pétition des 15 organisations, il n'est jamais question du capitalisme. Le capitalisme, on n'en parle pas. On parle de combat ou de lutter contre les idées du néolibéralisme. Je voudrais vous faire une remarque, camarades. Aujourd'hui, la politique des gouvernements bourgeois, elle est aussi peu libérale que possible. Aussi peu libérale que possible. Le libéralisme, c'est le fait que l'État n'intervient pas dans les rapports économiques. Et aujourd'hui, jamais, comme toujours dans les périodes de crise, jamais l'État n'était intervenu aussi puissamment, aussi brutalement dans les rapports économiques. Hein? Bien. Donc, si vous voulez, dans cette pétition, que je ne vais pas commenter, il n'est jamais question du capitalisme et il n'est jamais question des revendications ouvrières. Cherchez dans la pétition, vous n'y trouverez pas l'exigence de création des postes nécessaires dans les hôpitaux, vous n'y trouverez pas l'exigence de maintien du salaire entier pour les travailleurs, vous n'y trouverez pas l'exigence de gratuité totale des soins. Tout ça, toutes les véritables revendications ouvrières, en sont absentes. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est sur la base des éléments de programme que j'ai évoqués à la fin de mon rapport, hein, tout ce que j'ai dit autour du contrôle ouvrier, de la propriété, etc., c'est évidemment d'essayer de renforcer le noyau militant qui combat sur ce programme et qui en même temps combat de manière intransigeante contre la politique des appareils syndicaux de participation à l'union sacrée, union nationale. Nous allons au-devant de gigantesques événements de classe, du point de vue des combats de classe, de toutes les classes d'ailleurs, de toutes les classes, y compris la petite bourgeoisie, y compris les développements du style gilet jaune en beaucoup plus ample, etc., etc. Il est inévitable qu'il y ait des développements de cette nature. Et il est inévitable que dans ces développements à venir, que je ne peux pas prophétiser, il est inévitable que dans ces développements à venir, hein, la réaction des enseignants que j'évoquais tout à l'heure l'indique. Il y a des militants qui vont chercher la voie du combat, qui vont chercher la voie d'une orientation de classe, qui vont chercher la voie finalement d'une orientation révolutionnaire. Il est même probable qu'il y aura, avec des militants syndicaux, avec des jeunes, etc., qu'il y aura des regroupements politiques qui s'opéreront, hein, dont je ne peux pas définir les configurations exactes. De ce point de vue-là, nous combattre pour le socialisme, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On ne dit pas, vous allez voir, on est quelques dizaines, on va être quelques centaines, après on va être quelques milliers, après on va être quelques dizaines. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Hein. Mais par contre, ce qui est décisif, et c'est d'ailleurs la seule question sur laquelle on a prise, c'est est-ce que le regroupement qui existe aujourd'hui autour de combattre pour le socialisme, avec les limites qui sont les siennes, est-ce qu'il pourra avoir connu un développement suffisant pour peser sur les processus politiques en cours, parce que, je l'indique, camarade, moi je cite souvent la formule, mais pas seulement moi, nous citons souvent la formule de Rosa Luxembourg, socialisme ou barbarie. On voit bien comment la barbarie avance aujourd'hui, on voit moins comment le combat pour le socialisme avance, mais on voit bien comment la barbarie avance, bien. Ouais, camarade, l'issue de ce combat, il n'est pas donné d'avance, hein. Le socialisme, c'est une nécessité historique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que l'humanité se sauve, il est nécessaire qu'on passe au socialisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fatal que le socialisme arrive. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'abord d'une chose. Ça dépend du regroupement, que soit résolue la question de la direction révolutionnaire du prolétariat, que soit résolue la question du parti. Je le répète. Ce parti, il ne va pas se construire à partir de nous ou par simple développement de ce que nous sommes. Mais par contre, il y a une chose qui est de première importance, c'est que ce regroupement se renforce pour pouvoir peser sur les processus politiques à venir. J'invite les camarades à y réfléchir, et j'invite en particulier à y réfléchir les camarades qui nous connaissent, sont autour de nous, trouvent qu'on est sympathique, que ce qu'on dit est intéressant, etc., etc., mais qui disent que tout ça peut se faire sans eux et que, bon, ma foi, ils n'ont pas besoin, eux, de s'engager directement. Je pense que c'est un peu une erreur et je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, une certaine urgence et qu'une course de vitesse est engagée. J'ai fini.